Bonne action Châtier. Armand Sylvestre. Il était d'un beau vert clair, avec des reflets bleus autour du bec et de petites plumes rouges qui lui bordaient les ailes. Aussi érudit qu'agréable à voir, il causait de toutes choses comme un avocat ou un député, sans y entendre d'ailleurs davantage. Comme les faiseurs d'économie politique, il répétait toujours les mêmes mots, sans les avoir jamais définis, et tout le monde l'admirait. C'était, pour me résumer, un perroquet, qui avait eu grand tort de ne pas naître homme, car il eût été appelé aux plus hautes destinées de notre espèce. Bon garçon d'oiseau avec cela, aimant le vin à défaut des filles. Car la barbarie de mes pareils l'avait fait célibataire. Notre vieil ami, l'amiral Lequel Pudubec, l'avait autrefois rapporté à une certaine demoiselle de Vaudoré, dont les aïeux avaient peut-être été aux croisades, mais comme concierge, une belle créature, ma foi, et qui était bien bonne de se flanquer de la noblesse avec une chute de rein qui pouvait si bien s'en passer. Car où allons-nous si les charmes personnels d'une femme ne suffisent plus à la motiver dans la vie? Ce verbe charmant est de Théophile Gautier. Si jamais on rétablit la royauté en ma faveur, ce que je souhaite à mon pays, savez-vous comment je choisirais une souveraine à mon peuple? Eh bien, je louerais au musée de Cluny le trône de Louis le Gros, et j'y ferais asseoir toutes les vilaines de mes états, jusqu'à ce que l'une d'elles en fasse éclater les deux bras. À celle-là le titre glorieux de Belfessière, régente, en cas de mon décès. Revenons à la demoiselle de Vaudoré. Elle nomma son perroquet Gontran, et le bourra de sucreries et de caresses jusqu'à ce qu'elle fût obligée de le laisser en gage chez une dame Minaret, à qui elle avait complètement omis de payer son loyer. L'abus des nourritures succulentes avait donné au malheureux oiseau un commencement de diabète, plus une calvitie de la moitié du corps, ce qui en faisait au demeurant une assez vilaine bête. Sic transit gloria mundi. La dame Minaret n'était pas une méchante personne. Elle était même de la Société protectrice des animaux, et ne manquait jamais d'invectiver les cochers des fiacres qui battaient leurs chevaux, à moins qu'elle ne fût elle-même dans la voiture, parce qu'elle aimait être rondement menée. Elle n'étrangla pas Gontran, comme l'eussent fait beaucoup de mauvais maîtres. Mais à cause de sa laideur, elle le relégua dans l'endroit le plus fâcheux de son appartement. J'entends dans celui où l'on a coutume d'aller seul jouer le dernier acte de la digestion, lequel est un monologue très antérieur à ceux de Coquelin Cadet. Madame Minaret tenant une table d'hôte, le dit lieu était extrêmement fréquenté. Et là, le malheureux oiseau dut, comme M. Purgon, perdre l'habitude de parler à des visages. Il fit contre mauvaise fortune bon cœur, bien que visiblement humilié par cet exil. Recroquevillé dans ce qui lui restait de menu duvet, il médita sur la grandeur et la décadence des destinées. De prolixe qu'il était comme politicien, il devint muet, comme un radis. Mais qui le regardait de près et observait avec finesse n'eût pas été dupe de son recueillement, lequel était celui des gens qui étudient. Parfois son gosier semblait frémir sur des gammes inférieures qui ne sortaient pas. « Timeo virum unius libri », a dit Thomas d'Aquin, dans un latin de restaurateur. « Moi, je crains l'homme qui n'a pas de livre du tout et qui pense. » La force en ce bas monde est au silencieux. Seul, en effet, il ne révèle pas à leurs contemporains l'abîme de sottise qui est au fond de toute âme humaine. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi des perroquets? Donc, Gontran ne disait rien, mais il n'en était que plus redoutable à l'avenir. Si vous aviez vu ce jour-là Eva, vous en seriez devenu amoureux fou. Qui Eva? Mais mademoiselle Eva des Palombes, la future du gracieux Maurice des Ormeaux, capitaine au 3e hussard, un homme exquis et des plus nobles façons. Elle était à son bras pour la première fois, et tous deux, avec l'autorisation des parents, abandonnés l'un à l'autre pour quelques heures, cherchaient un nid à leurs légitimes amours. J'entends un appartement pour s'y installer tout de suite après la noce. C'est joli tout de même à regarder, une vierge pour de bon, dans l'éclat de sa chasteté pleine de désirs, toute rayonnante de l'inconnu qui la tente, et comme attirée vers les fleurs d'un abîme. Telle, elle marchait dans la clarté de sa joie, et la lumière de son amour, penchée pudiquement sur le cavalier qui avait pris la forme de son rêve. Et lui, son air était triomphant et d'une insolence douce. Un écriteau les fit entrer chez madame Minaret. Ils y trouvèrent précisément ce qu'ils cherchaient. Un logement au 3e, en plein soleil, avec un balcon pour mettre des fleurs. Celui-là même dont la demoiselle de Vaudoré avait précieusement omis de payer les termes. Comme on achevait de conclure la location, le hasard fit qu'on sortit l'infortuné Gontran de sa détestable retraite pour y nettoyer sa cage. À peine la sensible Eva l'eut-elle vue qu'elle se prit pour l'oiseau délaissé d'une tendresse et d'une pitié sans pareille. « Oh, la pauvre bête » fit-elle, « comme elle est déplumée. Ne pourrait-on lui mettre de la ouate sur les ailes ?»« Voilà un gaillard dont je voudrais bien me débarrasser, » répondit philosophiquement Madame Minaret. « Oh non, Maurice, achetons-le, » reprit la charmante créature. « Nous ferons une bonne action. Cet animal a l'air si malheureux ici. Nous le soignerons, nous le traiterons par l'hydrothérapie qui a si bien rétabli mon oncle. » Et comme Maurice ne semblait pas autrement enthousiaste de cette acquisition, elle se pencha à son oreille, de si près que son souffle était une caresse. « Ce sera pour attendre notre premier enfant ?» murmura-t-elle tout bas. Maurice ne résista pas davantage, et il fut convenu que l'on retrouverait Gontran installé dans une cage neuve le soir où l'on viendrait reposer pour la première fois, sous ce toit élevé à la dignité de conjugal. C'est ainsi qu'il était écrit que Gontran ne quitterait pas la maison. Si j'étais un de ces narrateurs impudiques qui ne perdent pas l'occasion d'entrouvrir les rideaux du lit de leur prochain, et même d'en soulever la couverture, j'aurais belle à vous conter comment la délicieuse Eva des Palombes perdit en une nuit le fruit de 18 ans de vertu, et la glorieuse façon dont le capitaine lui enseigna pour jamais le mépris de la sagesse. C'est dans le programme, et il n'est pas de fille sensée qui, après cette première leçon, n'ait envie de s'écrier « Mon Dieu, que j'ai été bête !» J'entends deux filles ayant pris au sérieux ses fonctions antérieures de demoiselle. Car j'en sais qui n'irait pour rien au monde à cette première, sans avoir répété généralement, et même plusieurs fois, et même répété de nombreux raccords. Mais je vous ai dit qu'Eva était une vierge pour de bon. Et quelle vierge! Blanche comme un lys, blonde comme un rayon de soleil, avec des chairs fouettées de roses tendres, comme certaines variétés de tulipes. Ah, capitaine, cherchez un autre pour vous plaindre. L'aurore vint trop tôt, dénouée de ses doigts de rose la couronne de leur volupté. Attrape, Parny. Eva sortit du lit la première, et toute honteuse dans sa grande chemise déchirée, se réfugia dans le cabinet de toilette, qui n'était séparé de sa chambre que par une portière. Maurice à son tour se leva, et ouvrit tout grand les rideaux à une vraie fusée de soleil. Soudain, noyé de cette lumière joyeuse et reconnaissante, l'appartement où il avait été jadis si heureux, Gontran, dont on avait apporté la cage dans la chambre, suivant les conventions que j'ai dites, eut un éblouissement. Sa langue, si longtemps muette, se délia soudain, et il se mit à clamer son bonheur avec un vacarme épouvantable. Ce fut alors qu'on put voir qu'il n'avait pas perdu son temps dans le silence du cabinet. L'expression est consacrée, et ne fut jamais plus juste. Car avec une fidélité admirable, mais en enflant considérablement leur intensité, il se mit à reproduire tumultueusement tous les bruits qu'il avait entendus dans le buen retiro de Madame Minaret. Ce fut un déchaînement d'ouragan, une colère d'éole, sans cause ego pour la calmer, une musique endiablée de vent saluant la liberté, une tempête non pas dans un crâne mais ailleurs. On dut l'entendre jusqu'à Soissons, dont les habitants frémirent d'aise, étant grands connaisseurs dans ce genre d'orchestration. Cependant, la pauvre Eva, derrière sa portière, entendait ce charivari, et croyant son mari seul dans la chambre, conçut une indignation si grande contre ce procédé indélicat qu'elle s'enfuit par une porte dérobée, s'habilla à la hâte chez Madame Minaret et courut se jeter, en pleurant, dans les bras de sa mère, lui jurant qu'elle ne resterait pas une heure de plus avec un homme si mal élevé. Tout s'expliqua par la suite. L'infâme Gontran fut vendu à un marchand d'oiseaux et fait, à la devanture de sa boutique, la joie des petits polissons. Eva et Maurice n'ont plus d'ailleurs besoin de lui. Depuis 3 jours, ils ont un fils qui s'appelle Pancras, comme l'oncle hydrothérapeuteux.